Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi les artistes parlent-ils sans arrêt de problèmes à résoudre quand ils créent et achèvent une œuvre? Dans quelle mesure peut-on critiquer ce vocabulaire des problèmes à résoudre en art? Qu'est-ce qui peut rapprocher ou distinguer, selon l'analyse de l'intentionnalité par Michael Baxandal, la réalisation d'un tableau de Picasso et la construction d'un pont tel celui du Forth en Écosse? Comment ce rapprochement se heurte-t-il à la nature processuelle du travail créateur, son cours incertain, inanticipable? Que signifie alors chez Picasso « je ne cherche pas, je trouve » ? Nous voici presque au terme de la grande enquête « Comment achever une œuvre » de Pierre-Michel Minguer, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur. Dans le cours précédent, la semaine passée, le sociologue philosophe de formation a proposé d'examiner quelle est la nature du contrôle qui règle le cours incertain et tâtonnant de l'activité créatrice. Il est donc parti d'une analyse philosophique du processus créateur, celle de Monroe Beardsley, philosophe analytique américain, dont l'un des articles écrits avec William Winsatt fut un des piliers de la théorie littéraire de la nouvelle critique après 1946. Pierre-Michel Minguer nous a expliqué, et je le cite, que les deux auteurs s'en prennent à la tradition interprétative qui cherche à cerner le sens des œuvres d'art en recherchant les intentions de l'auteur. Je retiens ici, poursuit Pierre-Michel Minguer, la relation de cette question de l'intentionnalité avec le problème de déterminer s'il existe une conception de la création qui placerait le travail sous la direction d'un premier moteur, l'intention, et de tout ce que cette cause permet d'organiser dans le travail. Le sociologue a donc mis en évidence la critique de la théorie dite propulsive, en soulignant notamment le caractère flou du contenu émotionnel supposé guider le processus créateur. Puis il a présenté en fin de cours la critique de la théorie finaliste. Ici, le processus créateur assimile généralement la production de l'œuvre à une résolution d'une série de problèmes. Alors plongeons dans les différentes théories et critiques et voyons à la fin comment Picasso pourrait susciter une voix médiane. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 29 mars 2019 pour le cours de Pierre-Michel Minguer. Aujourd'hui, rendre compte d'un processus tâtonnant, propulsion, finalisme et intentionnalité.
Beardsley discute cet usage finaliste de la notion de problème. Et alors Beardsley propose sa propre voie pour quitter l'impasse de cette position qu'il vient de critiquer. Et il développe ce que j'appelle, pour résumer, une théorie de la dynamique autogénératrice et autocorrectrice de l'activité. C'est ce qu'il dit ici. La vraie nature du contrôle de l'artiste sur le processus créateur échappe à quiconque recherche un seul facteur directeur, qu'il s'agisse d'un besoin, on pourrait ajouter, ou d'une émotion, d'un contenu émotionnel, ou d'une fin. Le contrôle est interne au processus lui-même. Mon but n'est pas de plaider pour l'existence d'un seul modèle d'activité créatrice, mais de montrer qu'en l'absence d'un tel modèle général, chaque processus individuel qui a pour résultat une œuvre d'art engendre sa propre direction et son propre élan. Car le pouvoir de contrôle essentiel en chaque point est la phase ou la condition particulière dans laquelle est l'œuvre inachevée elle-même, avec les possibilités qu'elle présente et les développements qu'elle permet. Et on se loge maintenant dans le processus. Une fois que l'œuvre est en cours, avec un engagement hésitant à l'égard du début, le processus créateur procède par tension. C'est ce vocabulaire qui ressurgit, mais qualifié autrement cette fois-ci, la tension entre ce qui a été fait et ce qui aurait pu être fait. Je ne vais pas commenter ici, mais c'est un motif essentiel. C'est l'enveloppe des possibles dans lesquels se déplace l'acte. À chaque étape, il doit y avoir une perception des défauts dans ce qui existe, accompagnée du sentiment de possibilité non réalisée d'amélioration. La force motivante est un jugement critique négatif. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que pourrait être fait. Chaque fois que l'artiste, peintre, poète, compositeur, procède d'une étape, il ajoute quelque chose à ce qui existe déjà et produit un objet différent. S'il juge B pire que A, il doit revenir en arrière. Si B est meilleur que A, la question est de savoir si B est suffisamment bon pour constituer une œuvre d'art. Si ce n'est pas le cas, B peut-il être transformé en un objet C meilleur? Et si c'est impossible, toute tentative pour améliorer le rempire, tout le projet est laissé inachevé car il est inachevable. Autrement dit, il y a un mécanisme interne de contrôle évaluatif mais qui n'obéit pas à des forces propulsives ou finalistes. C'est ça la thèse de Birdsley. Alors, évidemment, quand on a lu ce texte, on peut s'interroger de bien des manières. En fait, le texte de Birdsley que je cite, il contient une antinomie mais que j'ai évoquée, que je n'ai pas levée. L'antinomie, cette fois-ci, est enchâssée au plan micro et plus au plan macro. C'est-à-dire que je vais me loger dans le processus créateur. Et plus je m'y loge de manière interne dans le cours processuel des choses, plus le lexique de l'imagination créatrice, c'est-à-dire des opérations de génération d'alternatives, quels sont les possibles que je n'ai pas encore explorés et que je pourrais inventer, doit entrer en composition avec celui de la prise de décision. Il faut bien pouvoir décider face à une alternative ou à une possibilité nouvelle. Il faut décider. Est-ce que je la garde, je la prends, je la rejette? Et cette prise de décision, elle opère une sélection parmi les possibilités qu'on a discernées. Et elle doit déboucher sur son adoption après insertion ou sur son rejet, et éventuellement sur une situation de révision instantanée ou peut-être même, comme souvent, ultérieure. Et donc, on voit à nouveau ressurgir les deux modalités de description de l'activité. La génération d'alternatives correspond à une sorte de mécanisme stochastique micro-propulsif, c'est-à-dire je produis quelque chose et dans l'état suivant, il n'est que l'héritier de l'état immédiatement antérieur et il doit engendrer une décision, une action. Est-ce que je suis bien dans la ligne de ce que je voulais faire? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que ça ajoute quelque chose de significatif ou pas? Ça, c'est le côté stochastique. Et c'est une sorte de micro-propulsion, si vous voulez, mais interne à l'activité. Et dans la force causale, elle reste assez mystérieuse. Il parle de force motivante, et qui est un jugement critique négatif. Autrement dit, je suis immergé dans l'action et je dois me déplacer dedans, mais il n'y a pas de principe causal architectural qui gouverne le tout de manière simple. S'il existait, je saurais comment décider de manière extraordinairement simple tout le temps et avancer tranquillement. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, l'argument, c'est celui-ci. On doit générer des alternatives avec ce mécanisme stochastique micro-propulsif, mais la causalité est mystérieuse et la sélection obéit effectivement à un mécanisme de contrôle, mais qui opère selon un jugement de type « good enough to go further », c'est assez bon pour que je continue, ou bien « c'est pas assez bon et donc je vais revenir en arrière et résoudre le problème autrement ou chercher une autre solution, etc. » C'est ce fameux motif qui sera d'ailleurs exploré par la littérature sur la décision à travers l'opposition entre un choix de maximisation, c'est-à-dire je voudrais la meilleure solution, ou bien je veux une solution qui satisfasse, qui soit satisfaisante. Maximizing versus satisficing, c'est une des grandes idées de Herbert Simon. Quand les individus ont à décider quelque chose, ils ne vont pas déployer toute une architecture de la décision rationnelle qui dirait il y a un seul choix possible qui est le meilleur et qui maximise la totalité de tous les facteurs que j'ai mis en œuvre et c'est ce choix que je dois adopter. Ici, c'est beaucoup plus compliqué et donc je ne peux que choisir quelque chose qui me satisfait, c'est-à-dire qui est le meilleur possible dans le contexte en question avec un principe d'indétermination qui existe et qui m'empêche de tout calculer. Et pour compléter son analyse, Birdsley devient carrément kantien, il ne le cite d'ailleurs pas, ça c'est une autre histoire, la relation entre philosophie continentale et philosophie analytique, mais il y a maintenant des ponts. Il invente une formule d'accord des facultés, si vous voulez. C'est ce que disait Kant. D'un côté, l'imagination devient génératrice d'idées nouvelles, qui est attribuée à une instance inconsciente ou préconsciente, qui dirige la phase inventive, et de l'autre, il y a un mécanisme de sélection et de contrôle, une sorte de recta ratio ou d'entendement, celui du jugement qui n'est rien d'autre que l'exercice du jugement critique. On pourrait dire critique, c'est au sens de Kant, c'est-à-dire de condition de possibilité pour avancer, si vous voulez, par lequel l'activité consciente choisit ou rejette l'idée nouvelle après avoir perçu sa relation avec ce qui a été produit immédiatement avant et qui a été adopté. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot de jugement ici, et l'architecture des choix à faire, des décisions à prendre? Le jugement doit bien faire quelque chose, comme rapporter chaque choix local microscopique à son environnement de forme et de contenu en construction. Et pour ce faire, le jugement doit opérer selon des critères de choix. Mais comment sont formés ces critères de choix et comment agissent-ils pour que le travail opère à la fois dans une dynamique stochastique, c'est-à-dire à chaque coup de pinceau nouveau, un autre environnement de possibilités s'ouvre? Ça, c'est ce que disent souvent les peintres. Chaque coup de pinceau transforme l'œuvre, ou chaque mot qui suit transforme l'œuvre, évidemment, je construis. Et pour qu'il ne soit pas tout simplement prisonnier de ce qu'on appelle une dépendance de sentier en littérature des sciences sociales, c'est-à-dire le futur est entièrement dépendant des choix passés. Car s'il faut revenir en arrière, c'est en ayant une vision architectonique de l'ensemble qui est en progression. Et cette vision architectonique, c'est-à-dire de l'ensemble que constitue l'œuvre, elle introduit d'une manière ou d'une autre des critères de cohérence et ce qu'on pourrait appeler, plutôt qu'un motif directeur qui contrôle tout, un fil directeur, un leading thread qui contribue à la sélection des possibilités à choisir pour continuer ou à la décision de revenir en arrière et de choisir une autre voie. Beardsley, dans son article, critique la théorie finaliste de Hecker, vous l'avez vu, et il y voit en fait l'influence de John Dewey. Alors je suis allé regarder ce qu'a écrit John Dewey dans un livre fameux qui s'appelle « Art as Experience », qui a été traduit en français. Pour ceux qui ne le savent pas, John Dewey, c'est un philosophe qui a vécu presque centenaire, 1859-1952, qui est... un penseur de l'émancipation par l'éducation, mais aussi un philosophe qui est un des grands fondateurs ou contributeurs du pragmatisme en philosophie, qui a essaimé ensuite dans les sciences sociales et notamment en sociologie. Et il est en bonne compagnie avec des auteurs aussi fameux que William James, le frère de Henry James, que je cite toujours dans la slide du début de mon cours, et de Charles Peirce. Et donc j'ai regardé ce que dit Dewey, et Dewey emploie effectivement le vocabulaire des problèmes à résoudre, donc un vocabulaire plutôt qui paraît intellectualiste et qui contrarierait cette vision internaliste et micro-propulsive, comme je le dis, ou stochastique de l'activité artistique. Et il a cette idée qu'il faut bien résoudre des problèmes et que ça peut éventuellement permettre de penser un processus qui doit arriver à bonne fin. Mais ça ne correspond pas à ce que en décrit Beardsley. Et je vais juste vous résumer ici maintenant les arguments de Dewey en vous montrant à nouveau que, en fait, les problèmes, il les a vus à sa manière, mais à nouveau dans une situation de tension entre des forces. Cette exploration du travail de création artistique qu'il fait dans le livre « L'art comme expérience », dont une traduction est parue à la collection Folio Essai, elle décrit essentiellement le travail de création comme un processus orienté vers une fin non préméditée, mais placé sous une tension permanente en raison du caractère non linéaire de la dynamique temporelle de la production. La tension, elle est créée par l'accumulation de résultats intermédiaires. Donc on est bien dans ce même raisonnement. Et ces résultats appellent une continuité de réalisation, mais aussi une intégration progressive. Vous ne pouvez pas accumuler des petits morceaux sans les intégrer dans un ensemble, évidemment. Et pourtant, on n'a pas une vision complète du résultat attendu qui peut dicter complètement le déroulement de l'activité. C'est toujours le même problème. Il faut bien que ça s'intègre, et en même temps, ça s'intègre, mais pas selon un principe de contrôle par une idée directrice, sinon on serait dans l'ordre du concept que voulait éviter Kant. Et donc, cette valeur d'incertitude qui maintient le cours processuel dans une tension permanente vers un but, mais un but non prémédité, c'est précisément la condition des satisfactions qui sont procurées par l'exercice du travail, à l'artiste lui-même, et aussi des émotions douloureuses, comme on l'a vu dans les citations que je vous ai données dans les cours précédents. Donc, la dynamique du processus doit protéger l'acte de la monotonie et de la répétition, et écarter aussi le spectre d'une succession d'excitations dépourvues d'orientation et d'objectifs. C'est tout le problème. Quand j'ai donné la citation de Hirschman, c'était un peu le même problème aussi. C'est-à-dire, j'entrevois quelque chose et en même temps, ça n'est pas encore ça le but. Je reviens à mon activité et je joue back and forth. Je reviens, je repars, etc. Donc la continuité de l'activité consiste effectivement en une accumulation de résultats qui doit demeurer ouverte à la surprise et à l'incertaine anticipation des états ultérieurs. Voilà ce qu'il écrit ici. Le tour inattendu, quelque chose qu'un artiste lui-même ne peut pas prévoir du tout, est une condition de la qualité appréciable d'une œuvre d'art. Il la sauve du risque d'être mécanique. Donc, vous voyez les fils de ce que j'ai déployé, ce tressé. À nouveau, il donne la spontanéité de ce qui n'est pas prémédité à ce qui sinon serait le fruit d'un calcul. Le peintre et le poète, comme le chercheur scientifique, connaissent les délices de la découverte. Ceux qui réalisent leur œuvre comme la démonstration d'une thèse préconçue peuvent avoir les joies d'un succès égotiste, mais pas celle de l'accomplissement d'une expérience pour elle-même. C'est ce vocabulaire de l'expérience, de la densité d'expérience qui est au cœur du titre du livre, Art as Experience. Mais dans celle-ci, ils apprennent par leur travail, à mesure qu'ils avancent, et ils apprennent, donc le contenu d'apprentissage, j'en ai parlé déjà, à voir et à sentir ce qui n'était pas leur plan et leur but originel. C'est une formule assez compliquée quand même. Apprendre ce que je ne fais pas, ce que n'est pas ce que je fais, c'est aussi une manière de déployer l'apprentissage dans un univers probabiliste et possibiliste, si vous voulez. Je me rapporte à plusieurs univers mentaux ou plusieurs univers de réalisation possibles et je les compare à mesure que j'avance et je sais que je n'avais pas un but bien spécifié. En tout cas, s'il y en avait un, ça n'est pas ce que j'ai produit. Donc, je ne suis pas propulsif, dit Dewey, et je ne suis pas non plus finaliste, puisque je n'ai pas de principe aussi simple de décision. Et ici figure, je vous ai résumé les grands arguments du livre, c'est un livre qu'il faut lire, qui est absolument formidable. L'expérience même du travail suit un cours non prémédité, le processus est continu, il peut être décomposé par la description en séquence, mais la réalisation et ce qu'il appelle l'achievement sont des fonctions continues, il appelle ça comme ça. Le processus doit être sous tension continuelle à travers de multiples moments d'achèvement intermédiaire, donc on est dans ce caractère décomposable stochastiquement. Le travail alterne entre le fait et l'affaire par intégration ensembliste. Le contrôle exercé sur le déroulement du processus est celui de la construction progressive d'un ordre. Donc on a ce vocabulaire de « ordering ». Qui était dans le texte de Ecker, et d'un système de relations entre les éléments de la totalité qui se construit à travers la perception et l'évaluation de relations qualitatives entre les éléments pour assurer la cohérence d'un ensemble en développement et en changement. Ici, qualité veut dire que ça n'est pas l'objet d'une mesure quantitative et d'une sorte de calcul rationnel. C'est cette science de la qualité et de la complexité, les deux vont ensemble. C'est un vocabulaire, je ne vais pas m'attarder, mais qu'il faut explorer davantage. Et le contrôle vise à une intégration formelle, dynamique. La forme, c'est la manière d'ajuster les parties pour former un tout, mais en dynamique, c'est ça l'idée. Et l'art incarne effectivement ce qu'est la forme, selon Dewey. La forme, c'est le nom que prennent ces exigences d'unité et de complétude de l'activité de production et de perception. Et je ne résiste pas au plaisir de lire la suite, parce que des arguments, ils sont très intéressants, je crois. Pour détenir ces propriétés de continuité, de développement et de cumulativité, donc, le processus doit conserver un horizon incertain, porteur de surprises et de suspense, évidemment pour l'artiste lui-même, mais aussi pour le spectateur. La dynamique doit protéger l'acte de la monotonie, je l'ai dit, mais aussi écarter le spectre d'une orientation qui est sans objectif, aimlessness. Les problèmes à résoudre sont donc ancrés dans des propriétés physiques de l'activité dans le médium. C'est le travail sur le matériau. C'est ça, quand Flaubert parle de poétique insciente, ou que Bourdieu cite que le travail de l'artiste, c'est le travail sur la forme qui est l'objet d'une poétique insciente, dans son célèbre chapitre sur Flaubert et l'éducation sentimentale, apparaît ce vocabulaire du travail, qui n'est pas le vocabulaire central de Bourdieu, mais et il se réfère à ce mot de poétique insciente, c'est-à-dire une poétique qui est constituée dans le matériau lui-même, dans le médium lui-même. C'est le travail sur le matériau qui permet à l'idée vague de s'incarner dans le médium et de faire travailler l'imagination. L'artiste a ses problèmes et pense comme il travaille, mais sa pensée est plus immédiatement incarnée dans l'objet, par rapport à un scientifique, si vous voulez. Et donc, la spontanéité est le résultat d'un long travail, ou de ce qu'on pourrait appeler Il y a un très célèbre livre d'un auteur psychologue américain qui s'appelle Csikszentmihalyi. C'est un nom un peu difficile à prononcer, encore plus difficile à écrire, mais une fois qu'on a compris que c'est difficile, on le sait et on y arrive. Et ce livre s'appelle Flow. C'est l'expérience de l'absorption dans une activité avec une concentration telle que vous avez un sentiment de réalisation de vous-même et de certaines de bonheur dans le temps présent de votre activité qui peut durer, pas très longtemps, mais qui peut durer un certain temps et qui est un état de, en quelque sorte, qui suspend le temps et qui vous immerge. C'est une expérience d'immersion. Et il est produit précisément, non pas comme ça par le daydreaming, mais par le long travail. Vous n'atteignez pas à cet état-là simplement que ce n'est pas une rêverie que vous développez comme ça. La rêverie, ça existe, ça peut être très productif, mais ça n'est pas ça que désigne cette idée-là, et c'est en tout cas pas ça que veut dire Dewey. Et Dewey cite ici une lettre de Van Gogh, je cite, qui dit « Les émotions sont parfois si fortes que l'on travaille sans savoir que l'on travaille. » C'est ce que j'appelle cette expérience de « flow ». Et que les coups de pinceau se suivent avec une cohérence semblable à celle qui relie les mots d'un discours ou d'une lettre. Donc, il y a bien de la mise en ordre des éléments. Une telle richesse d'émotions et une telle spontanéité, dit Dewey, de l'expression, ne sont toutefois l'apanage que de ceux qui se sont longtemps absorbés dans l'observation de matériaux qui ont des liens entre eux et dont l'imagination est depuis longtemps occupée à reconstruire ce qu'ils voient et entendent. Donc, voilà. Je finis sur ce point, c'est que la conception processuelle de Dewey est là pour résultat de dire que la forme n'est rien d'autre que cette opération des forces qui conduisent l'expérience qui est faite d'un événement, d'un objet, d'une scène ou d'une situation jusqu'à son accomplissement intégral. C'est le mot de la forme, au sens de, à la fois d'une forme au sens artistique du terme, mais aussi d'une mise en ordre ensembliste des éléments, avec sa cohérence propre. Et donc, compris dans cette perspective, le processus apparaît comme contrôlé par ce mouvement d'intégration formelle des parties et ajusté à la construction mouvante de la totalité. C'est exactement ce que dit Beardsley. Donc, il s'est inventé un strawman, un personnage, un adversaire de paille, puisqu'il adopte en fait le même argument. C'est à cette condition que le travail de conception lui-même est accessible et intelligible à un sujet spectateur ou auditeur. Ça, c'est un autre motif qui est essentiel dans tous ces arguments qui sont développés ici, c'est que le spectateur doit bien pouvoir participer au travail du créateur à travers quelque chose comme ça. Il doit avoir le sentiment de la mise en ordre de tous ces stimuli. Et s'il atteint un niveau d'expertise ou de compétence, la compétence esthétique, ça se développe, qui est suffisant, il va pouvoir progressivement, en quelque sorte, reconstituer une partie, peut-être pas la totalité, mais une partie de ce que l'artiste a élaboré. Et il le reconstitue à la fois dans une vision d'ensemble et dans une vision des détails, pour savoir comment ces détails se sont articulés entre eux. Et les parties se sont articulées pour former un ordre. Et c'est comme ça qu'il peut s'identifier, dans une certaine imperfection, heureusement, à l'œuvre et à l'artiste, et qu'il peut en tirer des satisfactions. Et quand Kant disait « une partie du plaisir qu'on tire à la contemplation des œuvres ou à l'audition des œuvres, c'est précisément de pouvoir en parler à autrui », eh bien, une partie du plaisir, c'est de construire ce travail de réintégration des parties dans le tout et de reconstruire ce travail créateur plus ou moins complètement, plus ou moins lâchement. Il n'y a pas d'épreuve ultime, il n'y a pas de contrôle des connaissances, heureusement. Mais le plaisir esthétique, il est fortement lié à cette dimension-là. Et c'est un motif qui circule beaucoup dans ce livre de Dewey, parce que Dewey est très attentif aussi à la portée sociale ou socialisatrice de l'art. C'est un penseur de l'émancipation dans le monde social, c'est un penseur de la gauche américaine, on dirait aujourd'hui, et il a ce souci de dire, mais ça n'est pas une production qui met en œuvre un savoir supérieur ou une prise de risque supérieure de l'artiste, et le public n'a plus qu'à s'incliner et à admirer sans reste, et à être ébahi et confondu par la maîtrise de l'artiste. Non, le spectateur doit pouvoir entrer dans le jeu et y trouver sa place, et peut-être développer lui-même. Et donc, en ce sens, l'art, et c'est un motif central de l'œuvre de Dewey, l'art peut avoir une vertu éducative. Alors, l'une des cibles de Beardsley, mais on a vu que peut-être que ce sont des cibles un peu tremblantes, c'est la conception du travail créateur en termes de problèmes à résoudre. qui pourrait tirer vers une sorte de conception que le travail est lié à des concepts. C'est ce que voulait éviter la théorie de Kant, et c'est ce qu'on veut éviter d'une certaine manière en disant les facultés créatrices doivent se frotter l'une à l'autre. Il y a bien un contrôle et il y a aussi de l'imagination, de la liberté. Et le mot de problème lui sert en quelque sorte de cible négative. Mais on peut manier ce vocabulaire des problèmes à résoudre pour créer et achever une œuvre sans souscrire à ces théories que veut démolir Beardsley, c'est-à-dire les théories propulsives ou finalistes. Et j'ajouterais que les artistes parlent sans arrêt des problèmes à résoudre. Je veux parler des problèmes inhérents à la conduite de la réalisation des œuvres, pas simplement des problèmes d'intendance, évidemment, qui existent et qui peuvent contraindre ces problèmes intrinsèques, bien sûr. J'étais plongé ces jours-ci pour élaborer ce cours et l'achever dans un processus dynamique, si j'ose dire. Je m'étais replongé dans la considérable et assez extraordinaire monographie que Pierre Schneider a consacrée à Henri Matisse, le grand peintre, et le vocabulaire des problèmes à résoudre y est absolument omniprésent. Mais je pourrais faire la démonstration pour beaucoup d'autres œuvres. Je viens de citer Henri Matisse et puis un peu avant Henry Moore, et je voudrais juste vous faire remarquer en ce point que l'analyse a un peu changé de terrain par rapport à la semaine dernière. Dans le cours précédent, je présentais des résultats de l'enquête de deux jeunes sociologues sur les temporalités du travail artistique, et les auteurs donc indiquaient qu'ils enquêtaient sur des artistes ordinaires, comme ils disaient. Maintenant, la perspective, elle change, parce que je vais avoir affaire à des artistes pas tout à fait ordinaires, et plutôt extraordinaires. Alors, pourquoi est-ce que la situation change ? Il faut évidemment connaître des comportements au travail qui sont difficiles à objectiver. On peut objectiver des agendas de travail, des tâches à faire, etc. Mais objectiver la mécanique que j'ai décrite jusqu'ici, cette activité stochastique et cette micrologie du travail, c'est assez compliqué à connaître et à explorer. Et au point que, on le sait, les artistes se demandent toujours eux-mêmes comment ils font. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et on a des matériaux très fragmentaires. On a des déclarations d'artistes, on a des matériaux génétiques de création, de la documentation, de l'entourage, on a la correspondance, on a ce que disent les galeristes ou les éditeurs. On a aussi des enquêtes par entretien sur la façon de créer, et pas simplement sur la façon de gérer son temps. Mais tous ces matériaux, ils souffrent d'un biais que j'ai déjà signalé. Les informations sur le travail sont produites par la recherche monographique, essentiellement sur des artistes qui ont des carrières réussies, très consacrées, et qui sont réputés, reconnus, consacrés dans leur milieu, et par les publics, et aussi par les marchés. Autrement dit, ici, je n'enquête plus sur les comportements d'artistes situés dans différentes strates de réussite, mais sur la variété, la variabilité des comportements de création dans une seule strate, celle des créateurs consacrés. Alors, il y a des explications à ce biais de sélectivité réputationnelle. D'abord, les artistes qui sont les plus réputés suscitent une demande beaucoup plus importante de connaissances et d'analyses. Et donc, la matière dans laquelle vous pouvez vous plonger pour analyser les problèmes, elle est beaucoup plus abondante, par définition, pour des créateurs très consacrés. La fascination pour ces artistes est presque par essence une fascination pour leur travail et qui pousse à cet exercice imprévisible de l'invention et qui intrigue tellement les publics ou les spécialistes. Et ce biais de sélection, il tient aussi précisément à un raisonnement que vous trouverez d'ailleurs dans le livre que j'ai déjà cité antérieurement de Jon Elster, qui est un de mes collègues ici, qui en a donné une formulation très efficace dans Ulysses Unbound. Il dit « Il est plus intéressant d'étudier des œuvres de grande valeur esthétique pour rechercher les caractéristiques qu'elles partagent. » Et son argument est le suivant, le travail de l'artiste n'a rien d'un jeu sans contrainte. L'objectif des artistes, c'est d'obtenir dans leur travail la valeur la plus élevée possible, satisfaction personnelle, succès ou la liaison des deux, qui est incertaine. Et donc, il doit faire des choix en présence d'une gamme infinie de possibilités. On comprend bien comment maintenant. Et une des manières de créer, c'est de réduire l'espace des choix et d'adopter ou de s'imposer des contraintes de divers ordres. Mais, comme dit Elster, ça, c'est une caractérisation qui n'est pas un relief très particulier, autrement dit, pourrait s'appliquer à n'importe qui. Et il dit, identifier les aspects du processus créateur qui sont communs à tous les artistes, c'est une tâche qui est peut-être utile, mais qui a un intérêt limité. En revanche, comprendre comment opère le processus créateur qui aboutit, ou qui culmine, comme il dit, dans une grande œuvre, ça, c'est une tâche qui est d'un consuming interest, d'un intérêt brûlant, si vous voulez. Et pour analyser ce système de contraintes qu'on se donne et les choix opérés au sein de ce système de contraintes, Elster avoue aussi préférer étudier des œuvres d'un passé non radicalement moderniste ou déconstructeur, du type de la bicyclette de Duchamp ou de l'œuvre de John Cage, 4 minutes 33, vous savez. C'est un pianiste qui vient sur scène, qui s'assied devant son piano et pendant 4 minutes et 33 secondes, il ne joue rien. Et l'œuvre, c'est ça. Bon, c'est une œuvre musicale conceptuelle, si vous voulez. Ou alors, le texte de Joseph Kossuth, Definition. Non, ça ne l'intéresse pas. Il préfère étudier, et de fait, Stendhal et pourquoi Lucien Leven est un roman inachevé. Et donc, cherche à expliquer pourquoi Stendhal a échoué à achever l'œuvre. Et il pense que si on étudie des œuvres importantes et des auteurs importants, c'est qu'ils ont atteint une maîtrise supérieure de leur art et que donc les problèmes ont un relief infiniment plus grand. C'est une position à la fois épistémologique et presque de raccourci du travail, en quelque sorte. Il va se concentrer sur une petite partie du corpus, en pensant qu'il ne faut pas étudier toute la carte, mais il faut étudier ce qui a le plus de relief. Ce qui est l'argument central, c'est donc partir des grandes œuvres offre plus de chances de comprendre comment travaille celle ou celui dont les œuvres seront admirées et reconnues pour leur valeur, et ce qu'est au juste la créativité, au-delà du simple impératif d'originalité. Si je prends le critère juridique d'originalité, je peux tout mettre dans le panier. Si je prends un critère plus esthétique de l'originalité, le paysage va avoir un relief tout à fait différent. Il y a aussi à ce motif, à ces biais de sélectivité, d'autres raisons qui sont non moins évidentes. Les carrières d'artistes se déroulent sur des durées qui sont potentiellement très longues. Il y a la retraite d'artistes, c'est assez rare. Et la longueur et la fécondité de la carrière dépendent en partie de la valeur de ce qui est produit dans les différentes séquences de la carrière. Je n'ai pas le temps de développer, mais parce que la carrière se développe de projet en projet et que c'est un processus stochastique. L'achèvement des projets dépend pour une part de la réussite de ce qui procède. C'est plus ou moins violent, mais évidemment dans le cinéma, qui est un art capitalistique, si vous échouez une ou deux fois, les chances de continuer sont assez faibles. En peinture, si vous accumulez des œuvres et que vous avez des expositions qui marchent et d'autres moins bien, le couperet ne tombe pas avec la même violence. Mais bon. Et dans le roman, on peut encore, etc. Mais il y a une relation néanmoins. La longueur de la carrière est liée à une intensité de travail et à des réalisations marquantes. Cette relation entre quantité et qualité de la production, elle joue pour augmenter les chances des artistes productifs, aussi d'entrer dans des collections, dans des bibliothèques, dans des répertoires musicaux, etc. Et quand la production est plus abondante, évidemment, la matière à étudier pour comprendre les ressorts de la créativité, son déploiement et sa variabilité au long d'une vie de création, elle est elle-même beaucoup plus abondante. Je ne sais pas si je le citerai, mais je regardais ces jours-ci un très beau travail qui a été fait par un généticien de la littérature, Dirk van Hoole, qui est maintenant à Oxford et qui travaille sur le fond Beckett. Et il a essayé de quantifier la manière dont Beckett pratique les additions ou les soustractions à ses manuscrits en mesure qu'il révise son œuvre et qu'il avance dans la production de son œuvre et qu'il corrige et revient, etc. Et il montre avec des données quantitatives que Beckett, à mesure que sa carrière avance, il soustrait de plus en plus. Mais évidemment, on a ces matériaux pour Beckett. On ne les a peut-être pas pour n'importe qui. Et c'est une des leçons de ce genre de biais de sélectivité, c'est qu'effectivement, on voit l'argument se relier en quelque sorte le comportement de travail et la notoriété de l'artiste et peut-être le fait d'exercer un degré de contrôle ou de détenir une science supérieure de son activité. Après tout, si c'est un monde professionnel, ceux qui réussissent doivent détenir quelque chose comme des compétences ou autre chose, ou des savoirs qu'ils ont mis au point et qui leur permettent d'avancer plus loin dans la carrière et peut-être d'avancer plus loin dans la créativité. Et en tout cas, ils sont plus étudiés parce que les documents sont plus nombreux et que la demande d'information est plus grande, comme je l'ai dit. Alors, je ferme cette parenthèse méthodologique et je reviens à cette analyse du processus en termes de problèmes à résoudre, d'intentions, de questions soulevées. There's a line of symmetry to catch the watcher's eye. Waves upon the water echo, waves across the sky. Engineering waves were made, ripples carry on. A sturdy string of diamonds, strong and shining diamonds, proudly standing, no more a fairy landing. Between the darkness and the dawn, the fourth for all its beauty is deep and dark and wide. For centuries the traveller stood sadly by the tide. Ben Baker was the engineer to span the fourth at last. Arrows were the builders, whose finished bridge bewilders and enthralls us. Its humpback beauty calls us, a bridge back to the past.
Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minger, Comment achever une œuvre, aujourd'hui, rendre compte d'un processus tâtonnant, propulsion, finalisme et intentionnalité.
Je vais prendre appui sur un travail qui a été fait par Michael Baxandall dans un livre formidable qui s'appelle « Forme de l'intention »,« Patterns of Intention ». Le chapitre premier est consacré à ça, un pont, qui était un pont assez révolutionnaire, qui est en Angleterre, c'est le « Force Bridge ». Et le chapitre 2 est consacré à cette œuvre-là, qui est un portrait de David-Henri Canveller, qui est le marchand qui s'est occupé de Picasso assez vite dans sa carrière. Le premier marchand de Picasso, je crois, était Ambroise Vollard, on va le revoir, et le second est Daniel-Henri Canveller. Et les deux premiers chapitres du livre traitent de ça. Et ensuite, il y a des chapitres sur Chardin et d'autres artistes. C'est un historien d'art, Michael Baxandall, malheureusement décédé, et qui a écrit des livres que les sociologues aiment beaucoup, d'ailleurs. Je crois que c'est Bourdieu qui avait proposé et permis la traduction de « L'œil du Quattrocento » de Michael Baxandall, qui est paru chez Gallimard, qui porte notamment sur les contrats des artistes et la manière dont ils travaillaient au Quattrocento. Alors, dans ce livre, Baxandall a d'abord étudié les dessins et la conception de ce fameux « False Bridge », qui était dû à l'ingénieur britannique Benjamin Baker. C'était une innovation technique à l'époque. Et Baxandall étudie le brief, c'est-à-dire les instructions, les directives et les dessins, tous les graphiques qui ont été faits pour concevoir l'œuvre et pour comprendre quelle était l'intentionnalité de l'acte technique confronté à un problème et un défi. Ce pont a été construit pour remplacer un pont qui s'était effondré. C'était un pont ferroviaire. Et il y a un pont qui s'est effondré, qui a été une catastrophe épouvantable. Et donc, on s'est dit, il nous faut un pont qui tienne le coup. Et c'est ce pont-là qui a été construit et qui a servi ensuite de modèle. Il a des caractéristiques techniques qu'on appelle cantilever. Et je ne pourrais pas vous donner les descriptions complètes de toute l'affaire, mais ces ponts ont été jugés suffisamment innovateurs et révolutionnaires pour essaimer ensuite et pour être des modèles qui ont été appliqués, en tout cas, peut-être pas techniquement de la même manière, mais qui ont été appliqués dans bien des endroits du monde. Quand vous allez à Québec, vous voyez ce pont-là. Et dans le deuxième chapitre, Baxandall s'intéresse à cette œuvre-là, mais il commence par rappeler ce qui pourrait bien rapprocher les deux cas, une œuvre d'art et un projet technique. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui peut les distinguer ? Tous deux peuvent être décrits comme des solutions apportées à des problèmes. C'est ça le coup de force, en quelque sorte, auquel je veux vous rendre attentif. C'est clairement un problème. Il nous faut un pont qui tienne le coup. Et quelles sont les contraintes techniques, les défis, la technologie que je vais mettre en œuvre. Baker avait aussi contribué à la construction du métro de Londres. C'était vraiment un brillant ingénieur. Et il y a des solutions techniques tout à fait nouvelles, des aciers, des caissons sous vide, etc. Quand vous en voyez sur le Brooklyn Bridge à New York, enfin bon, et dans beaucoup d'endroits. Et le pont a été inauguré en 1889. L'œuvre de Picasso, elle date de 1910. Et donc, il y a bien des solutions à apporter à des problèmes, et on est dans la catégorie des activités intentionnelles. Picasso a l'intention de peindre Daniel Henri Canveller, et Daniel Henri Canveller est prié de venir poser une trentaine de fois pour ce résultat-là. Donc, la formulation, elle est ici. Le peintre avec son tableau ou tout autre producteur d'un artefact historique, c'est Baxandall qui parle, affronte un problème dont la solution concrète réside dans le produit qu'il nous propose. Comprendre son travail, c'est tenter de comprendre dans quels termes se posait le problème auquel il voulait répondre et les circonstances particulières qui l'ont amené à se le poser. Mais la reconstruction à laquelle on arrive ne recouvre jamais l'expérience qu'il a pu en faire lui-même. Elle sera simplifiée et limitée à ce qui est conceptualisable. Voilà l'exercice de raisonnement. Mais le rapprochement au sein de la catégorie des activités intentionnelles de résolution de problèmes entre la réalisation d'un tableau et la construction d'un pont, en fait, elle rencontre aussi très vite des limites. Deux limites. Le tableau, en tout cas celui de Picasso, qui est étudié par Baxandall dans les revues de littérature qui ont été consacrées à ce livre, qui a été jugé d'une très grande importance. Un des arguments qui est développé, c'est ce qui a été dit par Baxandall sur ce tableau vaut-il pour toute production artistique ? On revient à mes questions de variabilité, d'ajustement entre les théories, les explications et l'immense variété de production dans la peinture. Quand on se défait de la contrainte représentative, qu'est-ce qu'on peut libérer, qu'est-ce qu'on peut soustraire à l'argument intentionnel, etc. Je ne développe pas là-dessus. La reconstruction à laquelle on arrive ne recouvre jamais l'expérience qu'il a pu en faire lui-même. Elle sera simplifiée et limitée à ce qui est conceptualisable. Donc j'ai annoncé les deux limites. Le tableau n'est pas réalisé selon un plan préétabli et suffisamment décomposé et précis pour que son exécution soit déléguée à un deuxième acteur qui exécuterait les intentions du concepteur. L'ingénieur avait sous sa responsabilité d'autres ingénieurs et des techniciens à qui il pouvait déléguer les tâches. En fait, c'est la nature processuelle du travail créateur, son cours incertain, inanticipable à l'origine, qui apparaît. Donc, pas de délégation et, deuxièmement, une plus grande forme d'incertitude. Le peintre n'élabore pas d'abord un projet qu'il va ensuite, quand il aura saisi ses pinceaux, se contenter de mener à bout en s'en tenant à un simple rôle d'exécutant. C'est ça la différence. Et donc, ce chapitre est consacré à cette œuvre de Picasso, cette œuvre cubiste, et qui porte sur Daniel Henri Canveller. Vous savez que Daniel Henri Canveller, donc c'était un marchand, mais ce n'était pas simplement un marchand, c'est aussi un entrepreneur, c'est un marchand innovateur. Il a écrit des livres qui sont à la fois importants pour la compréhension du cubisme, notamment un livre qui offrait un cadre théorique au mouvement, d'une certaine manière. Donc Canveller qui construit une théorie et qui vend les œuvres, qui opère sur un marché où il est innovateur, avec des méthodes de travail qui sont nouvelles, etc. Un entrepreneur, comme l'a décrit Raymond Moulin dans son livre « Le marché de la peinture », il y a un chapitre sur Canveller, ou une section de chapitre sur Canveller. C'est quelqu'un qui théorise le cubisme et qui le vend. Donc, ça n'est pas une situation banale. Et Picasso, on l'a vu, il désintègre, il recombine les formes qu'il voit, il décrit Canveller avec des réseaux de surface miroitantes, semi-transparentes. Je vous cite ici le cartel de l'Art Institute de Chicago, c'est là que se trouve l'œuvre. Ils ont bien de la chance. Le cartel, c'est l'explication qu'on trouve sur Internet, la présentation de l'œuvre, et qui est très bien faite, qui est très courte, mais qui dit bien les choses. Les formes sont fracturées en plans et formes, fragmentées par facettage, présentées de plusieurs points de vue. Malgré le caractère très abstrait du portrait, Picasso ajoute des attributs pour diriger le regard et concentrer l'esprit. Une mèche de cheveux, le nœud de cravate, une chaîne de montres, de toutes ces zones vacillantes, flickering, marron, gris, noir et blanc, émerge un portrait plutôt traditionnel d'un homme assis, les mains serrées sur ses genoux. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas net, mais attendez, voilà. Ça, c'est Canveller, peint par Juan Gris, à qui il a consacré un livre d'ailleurs, et qui est un des peintres que Canveller avait dans ses galeries. Voilà, voilà le portrait, le dessin de Canveller. Maintenant, cherchez-le ici. Et on trouve beaucoup de choses, et on peut trouver ça, par exemple, qui est l'épure du portrait, dont vous voyez ici des cheveux, vous voyez ici le nez, mais le nez, il est construit sur un visage de masque africain. Donc, comme vous voyez, Picasso recombine beaucoup. Picasso a fait Les Demoiselles d'Avignon. Vous vous souvenez qu'il y a un masque africain sur le personnage féminin en premier plan qui apparaît de manière tout à fait inattendue. Ici, il y a une chaîne, un bouton. On ne voit pas l'œuvre de suffisamment près pour tout discerner, mais ici, il y a les mains, on les voit ici, qui sont croisées, effectivement. Ici, il y a une nature morte. Voilà. Donc, on avance un peu, mais le mystère est quand même assez puissant. Donc c'est une œuvre qui est faite pour intriguer, comme aurait dit Kant, relu par Lebrun. Il y a du communicable, mais il y a de l'indéterminé et du suffisamment indéterminé ou des jeux suffisants avec la signification, avec la représentation, pour que l'œuvre appelle la participation du spectateur. Et pour produire cette œuvre, comme je vous l'ai dit, Canveller a posé une trentaine de fois. Alors on pourrait se dire quantité, précision, les deux sont peut-être reliés, en fait, pas exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Picasso quand il a procédé ? C'est ce qu'on va essayer de voir un peu avec Baxandall. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Baxandall, dans ce chapitre, et à propos de ce portrait de Canveller, propose une description générale de la production d'un tableau. Cézanne disait, repris en cela par Picasso qui l'a prouvé, qu'un tableau change à chaque coup de pinceau. Vous comprenez d'où ça vient, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Dewey et Birdsley. Il ne parlait pas des changements qu'on provoque dès qu'on efface ou qu'on rectifie quelque chose sur une toile déchargée. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'au cours d'une exécution d'un tableau, chaque coup de pinceau modifie l'effet produit par tous ceux qui l'ont précédé. C'est ce back and forth et cette logique ensembliste. Chaque fois qu'il touche sa toile, le peintre se trouve confronté à une situation nouvelle. Même si au départ le peintre a une idée très nette de son travail, cette présence simultanée de tous les éléments du tableau aura des conséquences importantes. C'est dire que tant qu'un tableau est en cours, il pose un problème global qui évolue au fil des corrections et des révisions permanentes. Le médium, dans sa dimension physique autant que perceptive, modifie les termes même du problème au fur et à mesure que le jeu avance. Baxandall aussi a lu, ou peut-être pas lu, et retrouvé les résultats de Dewey, mais en les appliquant de manière plus technique, si vous voulez. Donc, la décomposition du processus, si elle est possible, elle décrit une situation d'extrême variabilité de l'action en raison de cette nature émergente et évolutive de la configuration des relations qui influence les choix à opérer à tout instant. Et l'objectif que se fixe Baxandall, une fois cette pierre posée, c'est de savoir comment l'analyse intentionnelle d'une œuvre peut prendre en compte ce qui concerne le processus de production d'un tableau. Et il va procéder à une sorte de description microphénoménologique de la dimension processuelle du travail. Il veut à la fois récuser le schéma d'un contrôle intentionnel qui réglerait tout du début à la fin, et en même temps, il ne veut pas simplement aboutir à une description d'un océan d'actes de travail qui ont chacun leur unité, et tout ça fait courir à l'analyse et aussi à l'observation par le spectateur, le sentiment qu'on est en une sorte de chaos interprétatif. Mais le travail consiste à substituer à l'œuvre la multiplicité des points de la cartographie du processus qui sont autant de moments de choix et de décision. Et cette multiplicité, comment bien pourrait-elle être accessible à l'analyse intentionnelle ? Je vous donne quelques citations ici. C'est d'entrer dans cette microphénoménologie, je ne vais pas les lire, les commenter, mais l'intention 1, puis l'intention 2, puis l'intention 3, qui sont liées à la dynamique du travail. Est-ce que l'arrière-plan intentionnel, si on le décompose ainsi, peut rendre compte de phénomènes aussi complexes que ceux que l'on a à faire. Et la proposition initiale de Baxandall, c'était de dire « Nous n'allons pas atteindre une vérité absolue, nous allons reconstituer ce que nous pouvons du mécanisme. » Et l'idée que développe Baxandall, et je vais finir sur ce plan, alors il dit, au fond, à la question qu'il a posée, la réponse est oui et non. On peut arriver à un certain nombre d'éléments, et en même temps, on ne peut pas tout expliquer, c'est pas possible, mais il nous faut un niveau intermédiaire, et rien de mieux que de proposer un cadre de problématisation, et j'emploie le mot à dessein, pour entrer dans le labyrinthe du problème de l'intentionnalité, autrement que selon les termes que j'ai évoqués antérieurement. Et c'est comme ça que va faire Baxandall. Il va dire quels sont les problèmes que veut traiter Picasso au début du cubisme et donc à l'occasion de la production de cette œuvre. Et il dit entre 1906 et 12, le portrait de Canveller date de 1910, donc on est au milieu de tout ça, les problèmes de fond qu'il identifie selon les œuvres, c'est la tension entre le caractère bi- et tridimensionnel de la toile. Vous le voyez, il y a à la fois du relief et de la bidimensionnalité. Bon, je ne vais pas tout le temps revenir en arrière. Une contradiction entre une expérience inscrite dans la durée et une instantanéité fictive, ça c'est un point essentiel, c'est un travail d'historien d'art. Un répertoire renouvelé de questions qui sont mises en jeu dans chaque nouveau tableau, donc le cubisme c'est un programme, et des problèmes spécifiques, enfin, qui sont traités dans l'œuvre particulière, donc c'est dans ce répertoire renouvelé de questions, qu'est-ce qui est spécifique à l'œuvre, le portrait de Canveller? Et je vous donne la liste des problèmes qui sont traités dans le portrait de Canveller. Le problème de la distinction entre la figure et le fond. Il faut que vous ayez l'image mentale de l'œuvre pour accrocher ces questions. Hein. Entre le personnage et ce qui se trouve autour de lui et derrière lui. Et le problème est encore aggravé par l'abandon d'une délimitation nette des contours de la figure. Et donc, il prend d'abord, il passe par le jeu des tons et des nuances de couleurs. Le personnage plus sombre se détache sur un fond légèrement plus jaunâtre. Il y a aussi le problème auquel le masque africain dont j'ai parlé contribue à mettre en évidence, pose les restes d'un traitement tonal du modelé induit par la source lumineuse qui vient de la droite du tableau. Le visage de Canveller est marqué par un épais effet de pâte qui montre clairement la difficulté. Le menton et la joue droite s'inspirent de la sculpture africaine. Et ça, c'est la question qui est effectivement traitée dans Picasso à cette époque-là, mais dans bien d'autres époques aussi, c'est la question du visage. Comment est-ce qu'on traite le visage? Et la virtuosité de Picasso est assez extraordinaire parce qu'il est capable de le traiter de bien des manières et pas de manière linéaire. J'adopte un traitement, puis un autre, puis je ne quitte plus mon progrès, je ne reviens jamais en arrière. Non, il a plusieurs manières, mais c'est vrai que c'est un point essentiel. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, les portraits, mais ça date déjà d'avant, mais avec le cubisme, c'est un défi supplémentaire, comment s'écarter à la fois de la représentation figurative et de la concurrence de la photographie. Je vous donne juste un indice de ça. C'est le portrait d'Ambroise Vollard, qui est le premier marchand qu'a eu Picasso. Et voilà la photographie d'Ambroise Vollard, une magnifique photographie d'ailleurs de Brassailles. Et on reconnaît Ambroise Vollard ici, beaucoup plus directement, et on voit bien que le visage d'Ambroise Vollard est capté par l'œuvre de manière assez saisissante, je dois dire. Quand on rapporte les deux, bon, là, Vollard est beaucoup plus âgé, l'œuvre de Picasso date de 1910, et là, Vollard, c'est en 1934, mais il a été aussi peint par Cézanne, vous le trouverez, et ça correspond bien à son visage, il avait simplement un peu plus de cheveux au moment de Cézanne. Donc la question du visage est une question sur laquelle Picasso a travaillé, et c'est dans la même année. C'est quand même très étonnant. Et pourtant, si vous regardez le visage ici, c'est toute autre perspective. Qu'est-ce qui s'est passé au juste et comment est-ce qu'on peut décider de débrouiller ces problèmes, qui sont des problèmes, vous me direz, qui concernent les historiens d'art, mais qui nous concernent nous comme spectateurs. Parce que si vous avez les deux œuvres côte à côte, dans un monde idéal, un musée holographique, vous allez pouvoir vous interroger. Qu'est-ce qui fait que dans la même année, il peint deux marchands, qui sont donc des marchands, je contrôle le facteur marchand comme toute chose égale par ailleurs, et pourtant, il les traite totalement différemment. Donc, c'est vrai qu'il y a une question de relation avec la photographie et avec le traitement du visage. Ensuite, il y a les rapports d'échelle entre les objets. Il y a des objets qui ont une échelle qui est totalement non dimensionné avec le reste de ce qui est observable sur l'œuvre, et le problème des textures. Il y a des pointillés, des marges, etc. Il a toute une panoplie de moyens, et il travaillait à ce moment-là avec Braque. Le cubisme, c'est une coproduction de Picasso et de Braque, et d'autres, mais de ces deux-là notamment. Et Picasso et Braque travaillaient très étroitement ensemble, et Braque lui a aussi conseillé, suggéré les collages, les papiers collés, les peignes de décorateurs, le gravier. Il y a du gravier dans le portrait de Canneveller, qui est inséré dans la peinture à l'huile. Donc, c'est ainsi qu'on arrive au raisonnement que fait Baxandall, et je termine sur ça. Normalement, l'explication d'un processus intentionnel ne se situe pas à ce niveau microscopique de une intention puis une autre, etc. Cette chaîne-là de I1 à I6 et à I, je ne sais pas combien. Ça, c'est des cartes météorologiques, si vous voulez, qui décrivent un processus évolutif à travers un langage statique. En fait, nous posons le processus plutôt que nous ne le décrivons et nous tentons de rendre compte de ce qui se joue à l'aide de larges approximations qui constituent des généralisations sur l'ensemble de l'intention. Mais ici apparaissent les solutions que propose Baxandall. Picasso n'avait pas besoin de formuler explicitement les problèmes qu'il affrontait. Il a affronté des problèmes, on a vu comment Baxandall nous en persuade. En fait, son action se situe au niveau du processus, son intention étant toujours ancrée dans l'instant présent. Tout son temps allait aux problèmes secondaires qui ne cessaient d'affluer au moment où il produisait son œuvre. On a vu qu'il avait des problèmes principaux assez généraux, mais dans l'œuvre, il est dans les problèmes immédiats. Et même pour trouver, Picasso, c'est quelqu'un qui disait « je ne cherche pas, je trouve ». Il faut des critères susceptibles d'établir ce qu'est une découverte. Le fait que Picasso n'ait pas toujours réfléchi consciemment sur les critères qu'il utilisait ne veut pas dire qu'il n'en possédait pas. Donc ça, c'est l'argument du jugement critique. Or, posséder des critères au moyen desquels il devient possible d'évaluer son travail, c'est agir de manière intentionnelle. Donc, on relie ici tous les fils de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, non pas pour trouver un modèle qui explique tout élément et la somme de tous les éléments. On voit qu'il y a un désaccord entre la caractérisation micrologique et la caractérisation macroscopique, mais on voit aussi comment essayer de trouver un modèle d'explication et d'analyse qui permet de fournir une théorisation intermédiaire et de prendre acte de l'approximation comme un principe heuristique et pas comme une sorte de limitation dramatique qui fait que rien ne marchera jamais. L'approximation, c'est notre moyen de travailler aussi.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours de Pierre-Michel Minger, « Comment achever une œuvre ?» Aujourd'hui, rendre compte d'un processus tâtonnant, propulsion, finalisme et intentionnalité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche, en point seuil, son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé l'ouvrage collectif « Le talent en débat » au PUF en 2018. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Pierre-Michel Minger son interrogation sur l'incertitude dans le travail créateur. Il sera question de la réalité du temps et de la sociologie processuelle. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.